Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, les savants sunnites ont dit qu'il est un devoir personnel, d'ordre personnel, pour toute personne responsable, pubère et saine d'esprit, de connaître 13 des attributs de Dieu. C'est-à-dire qu'il est un devoir d'en connaître la signification, sans que ce soit un devoir d'apprendre par cœur les termes même de ces attributs. Cette connaissance est un devoir du fait que ces 13 attributs ont été fréquemment mentionnés dans le Coran, soit littéralement, soit selon leur signification. Donc les attributs de Dieu sont de toute éternité, ils sont exempts de début et de fin. Ils n'ont pas de début, n'ont pas de fin, ils ne changent pas. Ils n'ont pas de ressemblance avec les attributs des humains. Donc, les attributs de Dieu, ils sont obligatoirement confirmés pour Dieu. Ils ont dit les savants, donc c'est des sujets très importants. Ils ont dit les attributs de Dieu ne sont pas lui, ils ne se séparent pas de lui. Ils ne sont pas lui, ils ne se séparent pas de lui. Donc c'est un point très important, il faut bien comprendre. Donc on ne dit pas que Dieu est une puissance, c'est une mécréance de dire que Dieu est un attribut. Comme disent certains philosophes, dire que Dieu est la volonté créatrice ou la puissance créatrice ou le cerveau, des trucs comme ça, mais ça c'est de la mécréance, bien sûr, ça s'appelle de l'irreligieux, l'irreligion. Donc celui qui dit ça, il est irreligieux, donc ça c'est contraire à l'islam. Donc Dieu est un être qui ne ressemble pas aux autres êtres, il a des attributs propres à lui, qui ne ressemble pas aux attributs des créatures. Les attributs des créatures peuvent se séparer d'eux. Un humain, il peut exister sans l'attribut de la vue ou de la connaissance. Donc le piège des autres religions, les autres religions ou les sectes comme le wahhabisme, c'est qu'ils veulent absolument, ils ne conçoivent pas qu'il y a un être qui existe en dehors de ce qu'ils ont l'habitude de voir, donc ils comparent Dieu aux créatures. Donc c'est ça les autres religions et les sectes, y compris le wahhabisme, ceux qui se font appeler salafites, etc. Voilà, en fait, du fait de faiblesse d'esprit qu'ils ont, ils ne conçoivent pas qu'il y a un être qui existe qu'on peut pas cerner. Donc ils veulent forcément cerner le créateur. Et la force du musulman, c'est ça, il a sa récompense qui est le paradis, parce qu'il fait ce grand effort, c'est un grand effort en fait, ou c'est un effort imminent, on va dire, même s'il est facile au final, pour c'est Dieu qui facilite. Et c'est que il reconnaît l'existence d'un être qui ne ressemble à rien. Il reconnaît qu'il est incapable d'atteindre la réalité de cet être. Donc c'est celui qui raisonne correctement. Donc celui qui raisonne correctement, il parvient à cela en fait. Il y a des gens que je connaissais des gens, on a entendu parler de gens, et même moi personnellement je les connaissais, qui sont convertis en se disant, ce monde il a un créateur, cette nature et cette diversité dans la nature, forcément il y a un créateur qui a voulu que ça existe et qui ne ressemble pas à cette créature, à ces créatures. Et quand ils ont vu que l'islam, c'est ce que dit l'islam, et c'est ce qui les a poussés à se convertir. Donc, on reconnaît qu'il y a un être qui existe, mais qui ne ressemble pas aux créatures. On peut pas le cerner, on peut pas le quantifier. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent. Voilà la croyance de vérité. Donc, et Dieu a des attributs. Donc, les attributs de Dieu, c'est pas n'importe qui attribue à Dieu. Donc c'est ce qui est cité dans le Coran, dans le Hadith, et sur lequel il y a unanimité de la communauté, des savants de la communauté. Sinon, on n'attribue pas quelque chose à Dieu qui n'est pas ainsi. Donc ils ont classé les attributs de Dieu. Mais tous les attributs de Dieu n'ont pas de début, n'ont pas de fin. Donc ces attributs sont obligatoires selon la raison pour Dieu. Car s'ils n'étaient pas attribués de ces attributs, il serait attribué du contraire, qui est une imperfection. Et l'imperfection est impossible s'agissant de Dieu. Et l'imperfection est impossible s'agissant de Dieu. Donc on ne dit pas que Dieu a besoin de ses attributs, ou que c'est un attribut, on ne dit pas qu'il se sépare pas de lui, et on ne dit pas que Dieu n'a pas besoin de ses attributs. Ça se dit ni ça, ni ça. Il y a une bonne manière de parler de Dieu. On dit qu'ils sont obligatoires selon la raison pour Dieu. Et personne d'autre ne lui a donné cela. Les créatures, c'est Dieu qui leur donne leurs attributs. Mais Dieu, lui, il n'a besoin de rien. Il existe par lui-même. Il n'a besoin de rien. D'accord? Alors, par exemple, dans le traité enseigné dans tout le Maroc, l'Algérie, Tunisie, il y a le traité de Ibn Ashr, c'est un savant de Fès. Donc, il y a plus de 400 ans, il existait. Il a un traité qu'on enseignait à 7 ans. Donc voilà, en fait, ces choses-là, on l'enseignait à 7 ans dans les pays musulmans. Il dit, dans un traité très connu, Yajibu والغنى المطلق عام وخلفه لخلقه بلا مثال ووحدة الذات ووصف وانفعال قدرة إرادة علم الحياة سمع بصر كلام ذي واجبات. Donc, et c'était un, il faisait, c'était un poème, en fait, pour que les jeunes, ils apprennent. Donc, il signifie, le passage que j'ai cité. Donc, il est obligatoire, selon la raison, s'agissant de Allah, l'existence, l'exemption de début, de même que l'exemption de fin, le non-besoin absolu, son exemption de toute ressemblance avec ses créatures, sans pareil, l'unicité de par lui-même, de par ses attributs et ses actes, une puissance, une volonté, une science, une vie, une ouïe, une parole, une vue lui sont obligatoires. Donc ça, c'est pour montrer comment s'est enseignée cette culture dans les pays musulmans. Donc les 13 attributs de Dieu, donc il citait ici, donc on voit bien dans le traité, plus de 400 ans en arrière. Donc il y a d'autres traités plus anciens encore. Donc on cite ça parce que c'est le Maghreb, ben c'est enseigné dans tout le Maghreb. Ça, ce livre, il est enseigné dans toute l'Algérie, Tunisie et Maroc. Le savant, il est d'origine de Fès. Il y a le commentaire qu'on enseigne. Pareil, c'est un ami du savant qui a fait le commentaire et puis... Il est de fesses aussi. Donc les 13 attributs de Dieu, qui lui sont obligatoires selon la raison, sont les suivants. L'existence, l'unicité, l'exemption de début, c'est-à-dire l'existence de toute éternité, l'exemption de fin, le non-besoin, la puissance, la volonté, la science, l'ouïe, la vue, la vie, la parole et la non-ressemblance avec ce qui entre en existence. Donc, nier un de ces attributs annule l'islam de la personne, catégoriquement, bien sûr. Celui qui nie un de ces attributs, c'est une mécréance. Donc, celui qui croit le contraire de ces attributs, ben, il sort de l'islam. Donc, alors, on a dit, nier un de ces attributs, donc, annule l'islam de la personne. Donc, il y a ils ont classé l'attribut, donc les attributs de Dieu. Il y en a un attribut qu'on appelle l'existence, al-wujud, ils ont dit. Ici, c'est pour confirmer l'existence de Dieu. Donc ils l'ont appelé attribut, c'est juste pour confirmer l'existence de Dieu. Donc Dieu existe de toute éternité, sans début. Donc il n'a pas de début, il ne dépend pas du temps, il ne donc il n'a pas de début, n'a pas de fin. Allah Ta'ala, quand on dit Ta'ala, ça veut dire qu'il est exempt d'imperfection. Exempté, ça veut dire qu'il n'est pas concerné par l'imperfection. Dit, Afillahi shak. Ce qui signifie, il n'y a pas de doute au sujet de l'existence de Allah. Donc l'existence de Dieu n'est pas due à la création de quiconque. Dieu existe. Il n'a pas de ressemblance avec les créatures. Il existe sans comment et sans endroit. Donc, Dieu ne dépend pas du temps. Il existe sans comment, sans endroit. Comme a dit l'imam Ali, par exemple, entre autres, il a dit, Allah est de toute éternité, alors qu'il n'y a pas d'endroit de toute éternité. Il est maintenant tel qu'il est de toute éternité. Donc les savants, donc il y a plusieurs paroles des savants qui disent que Dieu existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. L'endroit, c'est une créature de Dieu. L'univers, Dieu l'a créé, et l'endroit fait partie de l'univers. Donc l'ensemble du monde est créé par Dieu. Et Dieu, lui, donc, on dit pas. Il y a un autre point important aussi. Donc il y a les gens égarés. Ils jouent sur des paroles, ils font parce qu'ils font ressembler Dieu à ces créatures. Ils disent forcément il est quelque part, sinon il n'existe pas. Ça c'est de la mécréance. Donc Dieu existe sans être localisé, parce que celui qui est localisé c'est une créature. Donc Dieu n'est pas concerné par la localisation. Donc l'ensemble du monde lui-même il est sans endroit, parce que l'endroit fait partie du monde. Donc, ce n'est pas quelque chose, le monde dans un endroit qui est dans un endroit qui est dans un endroit indéfiniment, c'est faux. Donc, l'ensemble du monde, il est sans endroit. Donc, l'endroit n'est pas une condition de l'existence. Donc, l'ensemble du monde est sans endroit. Dieu est le créateur du monde, il existe sans endroit. Donc, ça, c'est la croyance de tous les prophètes. Les savants, ils ont dit, même quand, dans le Coran, par exemple, il y avait le débat entre Pharaon et Sayyidina Moussa. Pharaon, il dit à Moussa, qui est Dieu? Il dit, Sayyidina Moussa lui répond, c'est le Seigneur des cieux et de la terre, ce qu'il y a entre eux. Et après, Pharaon, il réplique, Sayyidina Moussa lui dit, c'est le Seigneur de vos parents et de vos ancêtres, anciens. Et il lui est toujours polémique, Pharaon, et Sayyidina Moussa lui dit, le Seigneur des Orients et des Occidents, et ce qu'il y a entre eux. À chaque fois, il parle de Dieu, qu'il est le créateur, donc, de l'univers, des créatures. À aucun moment, le prophète Moussa, quand Pharaon dit qui est Dieu, nous dit, ah bah, Dieu, c'est quelque chose qui habite le ciel. Les savants, ils ont dit, regardez, ça veut dire, Moussa et ses frères prophètes, ils croient que Dieu existe sans endroit et sans comment. Par contre, Pharaon, qui est égaré, mécréant, il croit que Dieu habite le ciel. Il dit à son ministre, ce qui est cité dans le Coran, il dit à son ministre, qui s'appelle Haman, construis-moi une tour pour atteindre les cieux et voir le Dieu de Moussa. Et je pense que c'est un menteur. Et Dieu nous dit, ainsi a été embelli pour Pharaon son mauvais acte. Il a été égaré du chemin. Ils ont dit, ça veut dire croire que Dieu habite le ciel et la croyance de Pharaon et ses frères mécréants. Donc ceux qui croient, les autres religions, ils croient que Dieu est quelque part. Donc ceux-là, c'est des mécréants, y compris la secte wahhabite. Donc les savants, ils ont montré que Dieu existe sans endroit, sans comment. Il ne dépend pas du temps. L'imam Ahmad al-Rifa'i a dit, Ghayatul ma'rifati billah al-iqan biwujudihi ta'ala bila kayfin wala makan. Ce qui signifie la limite de la connaissance que l'on peut avoir de Allah, c'est d'avoir la certitude de son existence ta'ala, que son existence ta'ala est sans comment et sans endroit. Donc on ne dit pas où, ni quand, ni comment au sujet de Dieu. Donc notre connaissance de Dieu ne peut pas atteindre la réalité de Dieu, mais elle concerne ce qui est obligatoire à son sujet, comme attribut de perfection, donc tel que la puissance, tel que la science, la puissance, ce qui est impossible à son sujet, comme le fait d'avoir un associé, et ce qui est possible à son sujet, comme le fait de créer quelque chose et de l'anéantir. Donc, c'est ça, connaître Dieu. Donc, c'est quelque chose à retenir. Connaître Dieu, ce n'est pas connaître sa réalité, parce qu'on ne peut pas connaître sa réalité. Et ça, il l'enseignait dans les écoles. Moi, j'ai un livre, école primaire. Là, c'était en Tunisie, donc pareil dans les autres pays. Ils enseignaient ça aux enfants, à l'école primaire. Il n'y a pas très longtemps, dans ce siècle-là. À l'école primaire, on enseignait connaître Dieu, c'est connaître ce qui est impossible à son sujet, ce qui est obligatoire à son sujet, ce qui est possible à son sujet. ce qui est imposé à son sujet, l'associé, le changement, l'incapacité, le fils, le début, la fin, l'impuissance, ça c'est impossible. Donc l'exempté, ce qui est imposé à son sujet, savoir ce qui est obligatoire à son sujet, les attributs de perfection, qu'il est tout puissant, qu'il entend, qu'il voit, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, qu'il sait toute chose. Donc on dit c'est les attributs de Dieu, ça se dit. Les attributs de Dieu, parce que c'est cité dans le Coran, le Hadith, que Dieu, par exemple, Inna Allah ala kulli shay'in qadir, qui signifie, c'est un verset, certes Dieu est sur toute chose tout puissant. Certes Dieu est sur toute chose tout puissant. Il est tout puissant sur toute chose. Voilà, on dit qu'il est attribué de la puissance. Donc il est attribué de la puissance. Il est tout puissant sur toute chose. Ouais, sauf l'existence, on dit pas ça, non. Al-Wujud, le reste, on dit attribut et nom. Voilà, les savants, les compagnons du prophète, parce que c'est, en fait, ça vient du Coran, quand il dit « Inna Allah ala kulli shay'in qadir ». Certes, « qadir », c'est certes, Allah, il est sur toute chose tout puissant. « Qadir », en langue arabe, ça veut dire, dans la grammaire arabe, « qadir », c'est l'adjectif. C'est-à-dire, il est tout puissant. Bon, la langue arabe, c'est plus riche, bien sûr. C'est la langue la plus riche, la meilleure langue. Que le français, des fois, tu traduis pas exactement la même chose. Il est puissant. Il est tout puissant. Donc, c'est un adjectif, en fait. Ça veut dire que, ici, ça veut dire, là, c'est l'analyse grammaticale, je te parle linguistiquement. Mais, ça veut dire, dans la croyance, ils ont dit, ça veut dire qu'il est, pour attribut, la puissance. Il est tout puissant, ça veut dire qu'il est, pour attribuer la puissance. Voilà. Donc la science de la religion, ça prend par transmission orale auprès des gens de la connaissance. La science de la religion, ça prend par transmission orale. Donc c'est comme ça qu'on va mieux comprendre les choses et bien comprendre les choses. Ce n'est pas par simple lecture à droite, à gauche, et là on s'égare facilement au final. Donc, alors, comme on l'a dit, donc l'attribut de l'existence, c'est pour confirmer l'existence à Dieu. Et puis, ils ont dit, il y a les attributs qu'ils l'appellent salbiya en arabe, c'est pour dire, c'est les attributs qui sont là pour, ils sont pour nier ce qui n'est pas digne de Dieu. Et puis il y a les sifat al-ma'ani, qu'on dit les attributs qui existent réellement et qu'il est valable qu'il soit vu. Si le voile est levé sur l'esclave, il est valable qu'il soit vu. Donc ils sont au nombre de 7 et on va voir les savants, certains ils les ont compté 8. Donc on va voir ces choses-là très importantes, très précises. Donc il y a les attributs salbiya, comme on dit, l'unicité, Dieu il est unique pour dire qu'il n'est pas multiple, le non-besoin pour dire qu'il n'a pas besoin, la non-ressemblance aux créatures pour nier la ressemblance aux créatures, l'exemption de début pour nier le début, donc c'est les attributs qui nient. Et puis ils ont dit les attributs de sens, qui existe réellement, la toute-puissance, la volonté, l'ouïe, la vue, la science, la parole, la vie. Donc c'est des attributs qui existent réellement. Et le baqa, certains, c'est-à-dire la non-fin, l'exemption de fin, certains savants, ils l'ont mis dans les attributs de sens. et d'autres ont mis dans, ils l'ont classé dans Salbiya, ce qui nie au sujet de Dieu, ce qui n'est pas digne de lui. Donc l'unicité de Dieu, en fait, on nie, on a bien dit, on nie ce qui n'est pas digne de lui, l'entrée en existence, l'incapacité, la contrainte, c'est ça. C'est bon. Donc il y a des attributs. Donc on a dit l'unicité, l'exemption de début, le non-besoin, la non-ressemblance aux créatures. Ces attributs-là, on dit As-salbiya, ce qui nie au sujet de Dieu, ce qui n'est pas digne de lui. Et puis les attributs, donc on dit al-ma'ani, de sens, qui sont des attributs propres à Dieu, bien sûr, et qu'il est valable qu'il soit vu si le voile est levé sur la personne. Donc la puissance, la volonté, la science, l'ouïe, la vue, la vie, la parole. Donc, et selon certains, al-baqa, l'exemption de faim. Donc, les attributs qu'on les a classés, c'est sifat al-ma'ani, les attributs de sens. Donc, on a dit l'attribut de Dieu à l'unicité. Allah, il est unique. Il n'a pas d'associé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de second. Dieu n'est pas composé de parties comme les corps, car le trône où n'importe quel corps, même le plus petit, est composé de parties. Il est donc impossible qu'il y ait une ressemblance entre le trône et Dieu. Allah n'a pas de ressemblance ni par son être, ni par ses attributs, ni par ses actes. Allah Ta'ala, c'est-à-dire exempté d'imperfection, a dit « Wa ilahukum ilahum wahid » ce qui signifie « Votre Dieu est un Dieu unique ». Donc Dieu, il est unique dans l'absolu. Il n'y a pas un être qui ressemble à l'être de Dieu. Et ses attributs n'ont pas de début, n'ont pas de fin. Ils ne changent pas. Les attributs de Dieu n'ont pas de début, n'ont pas de fin. Ils sont propres à lui, ils ne changent pas. Donc si Allah Ta'ala n'était pas unique mais multiple, le monde ne serait pas ordonné. Or le monde est ordonné. Il est donc obligatoire que Allah soit unique. L'imam Abu Hanifa a dit « Allah est unique, non pas du point de vue numérique, mais dans le sens qu'il n'a pas d'associé. » C'est dans ce sens-là. Donc c'est impossible qu'il y ait deux dieux. C'est une impossibilité rationnelle. Donc il y a la preuve sur cela. Donc on verra cela. Donc l'attribut de Dieu, l'exemption de début, Allah Ta'ala est exempt de début, dans le sens que son existence n'a pas de commencement. C'est-à-dire qu'il existe de toute éternité. En effet, il est obligatoire que Dieu existe de toute éternité, sinon il aurait besoin de lui. Il aurait besoin d'autre que lui, et celui qui a besoin ne peut être Dieu. Ainsi, tout ce qui est hormis Allah, tout ce qui est hormis Allah Ta'ala est entré en existence, c'est-à-dire créé par Allah. Allah Ta'ala dit, هو الأول والآخر. Ce qui signifie, il est celui qui est exempt de début et exempt de fin. Surat Al-Hadid, ayah 3. Il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ » ce qui signifie « Allah existe de toute éternité alors que rien d'autre que lui n'existe de toute éternité. » Cela veut dire que Dieu existe de toute éternité et nul autre que Dieu n'existe de toute éternité, ni eau, ni air, ni terre, ni ciel, ni trône, ni piédestal, ni ange, ni temps, ni endroit, Donc Allah est celui qui crée l'endroit, il n'en a donc pas besoin, il n'en a donc pas besoin. Donc celui qui dit que personne, celui qui dit que le monde est de toute éternité par son genre seulement ou par son genre et sa composition, ceci de la mécréance. En fait, on dit qu'ils ont un début, mais Dieu a voulu qu'il n'ait pas de fin. Ils ont un début, mais Dieu a voulu pour eux la non-fin. On dit éternel sans fin. On précise bien dans quelle entre guillemets direction. Sans fin. Parce qu'elles ont un début, n'existaient pas. Donc voilà. En fait, c'est simple. Tout ce qui est autre que Dieu est créé par Dieu. Tout ce qui est autre que Dieu est créé. Exactement. Si Dieu avait un début, il aurait besoin de qui lui donne le début. Et celui qui... Exactement. Croire que Dieu a un début, ou dire qu'il a un début, ça veut dire qu'il a besoin de qui l'a fait entrer en existence. Et celui qui est entré en existence, ben, il peut pas être Dieu. Il a besoin de... Donc, en fait, la raison accepte que tout l'univers a un début. Celui qui lui a donné le début, lui n'a pas de début à son existence. Donc seul Dieu n'a pas de début à son existence. Donc tout l'univers a un début et Dieu, lui, n'a pas de début à son existence. N'y a que Dieu qui n'a pas de début à son existence. Donc seul Dieu n'a pas de début, puis Dieu, bien sûr, n'a pas de fin. L'attribut de Dieu, l'exemption de fin. Allah existe et son existence n'a pas de fin. Il ne lui advient pas d'anéantissement, puisqu'il a été établi au-dessus de Dieu l'obligation de son exemption de début. Il est donc obligatoire à son sujet l'exemption de fin. Et voilà. L'exemption de fin qui est obligatoire à Dieu est l'exemption de fin propre à son être. C'est-à-dire que ce n'est pas autre que lui qui lui en a, qui l'en a attribué. Dieu est exempt de fin par lui-même et non pas autre que lui. Exactement. Donc le paradis, l'enfer, sont non pas de fin, mais parce que Dieu a voulu pour eux la non-fin, c'est-à-dire les instants sans fin du paradis, de l'enfer, c'est Dieu qui les crée. Dieu est le créateur de l'éternité, du paradis, de l'enfer, mais Dieu lui-même est éternel sans début. Il ne meurt pas, il ne s'anéantit pas. Allah Ta'ala dit, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Ce qui signifie, certes, l'être de ton Seigneur ne s'anéantit pas. Sourate Ar-Rahman. Quant à la non-fin de certaines créatures de Dieu, comme le paradis et l'enfer, établies par l'unanimité, ce n'est pas une non-fin qui est propre au paradis et à l'enfer, car ils sont tous deux créés, et ce qui est créé ne possède pas la non-fin par soi-même. En effet, le paradis et l'enfer n'ont pas de fin parce que Dieu l'aura voulu de toute éternité la non-fin. Mais ce n'est pas par eux-mêmes qu'ils n'ont pas de fin. C'est Dieu qui crée les instants, en fait, parce que, comme on a dit, chaque instant est créé par Dieu. Et donc, l'enchaînement d'instants créés par Dieu, c'est ce qui fait le temps. Et quand ça s'arrête pas, c'est l'éternité, sans fin. Mais n'existe pas de créature qui n'a pas de début. Toutes les créatures ont un début. Seul Dieu n'a pas de début à son existence. Il ne dépend pas du temps. L'attribut de Dieu, le non-besoin. Dieu n'a pas besoin de ses créatures, car le besoin d'autrui est un signe de l'entrée en existence. Celui qui a besoin, il peut pas exister par lui-même. Et Allah est exempt de cela, alors que toute chose a besoin de Dieu, et Allah n'a besoin de rien. Allah Ta'ala dit, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ce qui signifie, certes, Allah n'a pas besoin des créatures. Surat Ali Imran. L'imam Ali, que Allah l'agrée, a dit, Allah a créé le trône comme manifestation de sa toute-puissance, il ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. Allah a créé le trône comme manifestation de sa toute-puissance, il ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. Pour manifester qu'il est tout-puissant, pour montrer aux gens, aux anges, parce qu'il y a les anges, nous on voit pas le trône, mais les anges, c'est dit dans le Coran, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Donc, les anges, ils tournent autour du trône, ils glorifient Dieu. Donc, Dieu crée ce type de créature pour manifester cette puissance. Elle a créé le trône, Al-Kursi, le piédestal, etc. Mais il n'en a pas besoin. Il peut les anéantir en un instant et les créer en un instant. Donc, les actes d'adoration des croyants ne lui profite pas, et les péchés des désobéissants ne nuisent pas à Dieu. Il lui advient ni profit ni nuisance. Il a créé les cieux et la terre dans 6 jours. Donc il a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux dans 6 jours pour nous apprendre la douceur et nous apprendre à ne pas perdre patience. Mais il aurait pu créer les cieux et la terre, ce qui est entre eux, en un instant. Voilà, c'est-à-dire, c'est dit dans le Coran, من عمل خيرا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. C'est-à-dire, celui qui fait un bien, c'est pour soi-même, celui qui fait un mal, ce sera contre soi. Et certes, Dieu n'est pas injuste envers les créatures. Donc Dieu ne lui advient ni profit ni nuisance. Si tu fais le bien, ce sera toi qui vas en profiter. Et si la personne fait le mal, ce sera contre elle. Mais Dieu, personne ne peut nuire à Dieu. Personne ne peut lui porter profit. Donc on a dit la non-ressemblance aux créatures, on en a parlé. Donc, l'attribut de Dieu, la non-ressemblance avec les créatures. Donc, Dieu a pour attribut toute perfection qui est digne de lui. Il est exempt de toute imperfection, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas digne de lui, Ta'ala, comme l'ignorance, l'impuissance, l'endroit, le lieu, la couleur et la limite. Allah Ta'ala dit, « Laysa kamithlihi shay'i ». Ce qui signifie absolument rien ne ressemble à Allah. Donc ça c'est un point très important. Comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu on peut pas le cerner, on peut pas le quantifier. Il n'a pas de semblable, n'a pas d'égal. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi, mort en 323 de l'Hégire, a dit تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. Dieu est exempt des limites, des membres, des fins. Il n'est pas contenu par les 6 directions comme le sont l'ensemble des créatures. Donc Dieu n'est pas contenu par les 6 directions. Donc ça c'est par exemple, un exemple, hein, ça c'est un exemple, ce savant, il a plus de 1000 ans, hein. Donc, mort en 323 de l'Hégire, on est en 1445. donc plus de 1000 ans. Donc c'est enseigné ça par exemple en Égypte. Donc ça c'est l'enseignement des pays musulmans en fait. Donc on voit l'enseignement des pays musulmans. Alors, donc cela indique clairement que Dieu n'est pas concerné par les six directions comme c'est le cas pour tous les corps. En effet, les corps n'échappent pas au fait d'être contenus dans l'une des six directions car le corps est forcément dans un endroit. Ainsi, Dieu existe sans endroit et sans direction. Allah subhanahu, exempté d'imperfection, n'a aucune ressemblance avec ses créatures, ni par son être, c'est-à-dire son être n'a pas de ressemblance avec l'être des créatures, ni par ses attributs, ses attributs n'ont pas de ressemblance avec les attributs des créatures, ni par ses actes n'ont pas de ressemblance avec les actes des créatures. Ainsi, l'acte de Dieu est sans mouvement ni organe. Du fait que Dieu a voulu qu'une chose arrive, elle se réalise immanquablement. Donc sans organe, sans contact, ni organe. Voilà donc l'attribut de la non-ressemblance. Donc c'est les attributs en fait qui sont là pour nier ce qui n'est pas digne de Dieu, l'exemption de début, l'exemption de fin, le non-besoin, l'unicité et la non-ressemblance aux créatures. L'exemption de fin, donc on a vu que les savants, certains ils l'ont classé dans Sifat al-Ma'ani, c'est-à-dire dans les attributs de sens qui existent réellement, qu'il est valable qu'ils soient vus. D'autres ils l'ont classé dans les attributs de As-Salbiyya qui nient tout simplement ce qui n'est pas digne de Dieu. Donc, on a vu l'attribut du non-besoin. Maintenant, l'attribut de la puissance. Dieu a pour attribut la puissance. Et cet attribut est de toute éternité exempt de début et de fin. Sa puissance concerne toutes les possibilités rationnelles. Donc ça, c'est un sujet très, très, très important où il y a des gens qui piègent. Les gens égarés piègent les musulmans, ils veulent piéger du moins les musulmans avec des choses contraires à ce sujet. Donc, quand on dit Dieu tout-puissant, ça veut dire, on dit que Dieu est tout-puissant sur toute chose, ça veut dire le possible rationnel. Donc, la puissance de Dieu concerne le possible rationnel. Et la volonté de Dieu concerne le possible rationnel. Donc attention, attention, comme on l'a vu tout à l'heure, on ne dit pas que Dieu a besoin de ses attributs, on ne dit pas qu'il n'a pas besoin, ça se dit ni l'un ni l'autre. De même, on ne dit pas que Dieu est capable sur une chose impossible, ni qu'il est incapable, ni l'un ni l'autre. Il y a des questions pièges, s'ils vont dire Dieu, est-ce qu'il peut créer un autre Dieu, ou avoir un fils, ou s'anéantir, ou être localisé, quantifié. Ça, c'est de la mécréance. On répond ni par oui, ni par non, ça s'appelle des questions pièges. Donc, Dieu, il est tout puissant sur toute chose, par sa puissance, il crée et l'anéantit. Donc, la puissance de Dieu concerne ce qui est possible, rationnel. Parce que le reste, c'est de l'absurde. On ne peut pas dire quelque chose, on ne peut pas dire quelqu'un, il est en mouvement immobile à la fois. Donc, ou mort-vivant, ou... Donc c'est la réunion de deux choses opposées est impossible. Donc la puissance de Dieu concerne le possible rationnel, ne concerne pas l'impuissant, l'impossible. Donc Allah Ta'ala dit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ce qui signifie il est sur toute chose tout puissant. Si Dieu n'était pas tout puissant, il aurait une incapacité. Et s'il avait une incapacité quelconque, le monde n'existerait pas. Dieu, il est tout sur toute chose, tout puissant. Donc, par sa puissance, il crée, il anéantit. Donc, la puissance de Dieu concerne le possible rationnel. Donc, ne concerne pas l'impossible, comme on l'a dit. Donc on ne dit pas que Dieu est tout-puissant sur une chose qui est impossible, c'est de l'absurde. Donc là, faire attention aux questions pièges. Donc on ne dit pas Dieu peut avoir un fils, mais il ne le fait pas. Il y en a, ils tombent dans cette question, surtout ceux qui font des débats avec des chrétiens. Ils n'ont pas appris la religion, ils veulent soi-disant faire des débats. Dans l'islam, c'est pas comme ça. Il faut maîtriser. Il faut avoir un niveau. Et là, ils vont à l'aventure, ils filment. Soi-disant, ils font des débats, ils s'égarent. Parce que souvent, quand ils font des débats, les gens en face, ils vont dire, eh, mais vous dites que Dieu est tout puissant. Donc, il peut avoir un fils, il peut s'anéantir, peut créer un autre Dieu, peut être dans une bouteille. Donc, tout ça, c'est des questions de mécréance. Et il y en a, ils tombent dans le piège. Alors que le prophète nous a montré, ou t'apprends, t'as le niveau pour maîtriser, ou tu tais et tu dis Amen tu billahi wa rasulih, comme dans le hadith très connu où le prophète il dit le shaitan il vient l'un de vous, il dit qui a créé ça, qui a créé ça, après il dit qui a créé Dieu. Donc le prophète nous a dit qu'est-ce qu'on répond, Amen tu billahi wa rasulih, j'ai cru en Allah et en ses messagers. Parce que Shaitan n'est pas là pour apprendre. Donc, les gens qui posent ce genre de questions, il faut maîtriser, il faut, ou tu réponds pas, tu dis, je crois en Allah, en sa messager, tu changes de sujet, ou tu montres que, attribuer à Dieu la quantité et la localisation, bah, c'est, celui qui, localisé et quantifié, il ne peut pas être Dieu, déjà. Donc, on peut, et on, c'est impossible donc d'attribuer à Dieu l'entrée en existence, le changement. Donc on dit la puissance de Dieu ne concerne pas l'impossible rationnel. Il n'est pas valable que l'impossible soit concerné par la puissance de Dieu, parce que l'impossible n'admet pas l'existence. Et l'obligatoire n'admet pas le néant. N'admet pas la négation. Donc ça, c'est des sujets très importants. Par exemple, si on dit un corps, et c'est forcément un corps, et il est forcément obligatoirement soit immobile, soit au mouvement. Un corps obligatoirement soit immobile, soit au mouvement. C'est impossible qu'il y ait un corps qui ne soit ni mouvement ni immobile. Ça n'existe pas. C'est de l'absurde. C'est une absurdité parce qu'un corps, il peut nécessairement soit immobile, il peut pas être ni l'un ni l'autre. Et c'est impossible aussi qu'il soit les deux au même temps. Il peut pas être au mouvement immobile à la fois, c'est une impurité. La réunion de deux choses opposées est impossible. Donc de là, on n'attribue pas ce genre de choses impossibles à la puissance de Dieu. C'est un piège. Donc, on n'attribue pas à cela la puissance de Dieu. Donc, par sa puissance, il crée l'anéanti. Donc, on ne dit pas que Dieu, pareil, t'as vu, il y a une manière, une bonne manière de parler au sujet de Dieu. Comme tout à l'heure, on ne dit pas que Dieu est, on ne dit pas que Dieu est, il a besoin de ses attributs, on ne dit pas qu'il n'a pas besoin, ni l'un ni l'autre. De même, on ne dit pas que Dieu, que Dieu est incapable pour une chose impossible, nous on ne dit pas qu'il est incapable. La bonne réponse de dire cette chose est une chose impossible. L'impossible ne peut pas exister, donc il n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Voilà. Exactement. Donc on a dit l'attribut de Dieu, la volonté aussi. L'attribut de Dieu. À la volonté, Dieu a pour attribut la volonté, c'est-à-dire le vouloir. Par cet attribut, Dieu spécifie les possibilités rationnelles par certaines caractéristiques au lieu d'autres. Par un temps au lieu d'un autre, par telle couleur au lieu d'une autre. Donc, toutes ces créatures ont été spécifiées par la volonté de Dieu. Donc Allah a obligatoirement l'attribut de la volonté et sa volonté concerne la totalité des actes des esclaves. Ça concerne tout, que ce soit les actes de bien ou de mal, Il a été rapporté que le prophète a enseigné à l'une de ses filles de dire Ma sha'a Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Cela veut dire ce que Dieu veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Ce que Allah veut est ce qu'il ne veut pas n'est pas. Donc la volonté de Dieu est ne change pas, est éternel, sans début, il ne change pas. Donc la volonté de Dieu est éternel, sans début, il ne change pas. Donc dans le hadith, il signifie ce hadith, ce que Allah veut est, ce qu'il ne veut pas n'est pas. L'attribut de Allah, la science. Dieu sait toute chose de toute éternité. Sa science n'a pas de début ni de fin, il ne change pas. Il sait ce qui était, ce qui sera et ce qui n'arrivera jamais. Allah, il sait tout. Donc on a dit la volonté de Dieu ne change pas, c'est-à-dire en fait tout est sous sa volonté. Si t'as fait t'as appris telle doua, tu as fait telle doua et t'as été exaucé, c'est-à-dire tout ça c'est voulu par Dieu que tu apprennes telle chose, que tu fasses telle doua. Et que tu fasses tel bienfait, que tu auras telle chose. Et en fait, tout est sous sa volonté éternelle. Il sait toute chose avant qu'elle n'arrive. Il sait sa réalité, il sait ses créatures. Seul Dieu, d'ailleurs, on dit seul Dieu sait sa réalité. Seul Dieu sait sa réalité. Donc ça, c'est à retenir. Seul Dieu sait sa réalité. Aucune créature, ni prophète, ni ange, ni humain ne connaît la réalité de Dieu, par contre, on dit seul Dieu sait sa réalité. Donc, seul Dieu, il sait toute chose aussi. Donc, il sait toute chose. Allah Ta'ala dit, wa huwa bi kulli shay'in 'alim, ce qui signifie, il sait toute chose. Ainsi, savoir la totalité des choses cachées et spécifiques à Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Mais Dieu révèle une partie de ces choses cachées à certaines de ses créatures, telles que les prophètes, les saints et les anges. Il révèle certaines choses. Mais il n'y a que Dieu qui sait tout. Donc attention, certaines sectes, ils disent le prophète, il sait tout ce que Dieu sait. Ça, c'est de la mécréance attribuée au prophète. Un des attributs de Dieu, c'est une mécréance. Donc, seul Dieu sait toute chose. Donc, celui qui dit que le messager sait absolument tout ce que Dieu sait devient mécréant, car celui-là a assimilé le messager de Dieu par l'attribut de la science. Donc, il a assimilé le messager à Dieu par l'attribut de la puissance. Donc, car celui-là a assimilé le prophète à Dieu. Donc, ce qui est établi parmi les gens du Tawhid, c'est que les caractéristiques des créatures n'ont aucune ressemblance avec les attributs de Allah. Donc, les attributs des créatures n'ont aucune ressemblance avec les attributs de Dieu. Donc, il n'est pas permis de croire que Dieu apprend des choses, car ceci revient à attribuer à Dieu l'ignorance. Et le changement, et ceci de la mécréance. Dieu sait toute chose avant qu'elle n'ait lieu. La science de Dieu ne change pas. Dieu ne change pas et tous ses attributs ne changent pas. Celui qui change a besoin de qui le fait changer, donc il est créé. Donc, sache que la science de Allah est éternelle, exempte de début, tout comme son être est exempt de début. Il est de toute éternité. Un être qui sait sa propre réalité, ses attributs et ce qui fait exister comme créature. Il n'est pas caractérisé par le fait d'avoir des connaissances, une science qui advient. Il n'apprend pas des choses, car s'il lui était possible d'être caractérisé par des choses qui adviennent, cela exclurait l'exemption de début à son sujet, parce que celui qui est sujet aux choses qui adviennent a obligatoirement une existence ayant un début. Donc faire attention aux mauvaises traductions et, ou des gens qui interprètent des hadiths ou des versets. Par exemple, sa parole Ta'ala, le verset Al-ana khaffafa Allahu 'ankum. Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Ce qui signifie maintenant Allah vous allège votre charge car il sait de toute éternité qu'il y a en vous une faiblesse. Donc ça parle de certaines abrogations pendant la vie du prophète. Il faut savoir, certaines lois ont été révélées et puis après un certain temps, elles ont été changées pendant la vie du prophète. Pour une sagesse, Dieu décrète telle chose et après un certain temps, quand les gens se renforcent, il décrète une autre chose. Donc le verset veut bien dire que Dieu vous a allégé maintenant, mais il sait de toute éternité que vous aurez une faiblesse. Cela ne veut pas dire que Dieu apprend ou qu'il change. Donc non, il sait toute chose avant qu'elle n'existe. La signification est donc que Allah vous allège votre charge maintenant parce qu'il sait par sa science de toute éternité qu'il y a en vous une faiblesse. De même, sa parole Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Ce qui signifie, nous vous éprouvons de sorte à faire distinguer, c'est-à-dire manifester aux créatures qui fait le djihad dans la voie que Dieu agrée et fait preuve de patience contrairement aux autres. Alors qu'Allah le sait de toute éternité. Tout comme l'a rapporté Al-Bukhari d'après Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Muthanna. Donc un compagnon, il a dit cela. Ça veut dire, Dieu vous éprouve pour manifester donc celui qui obéit. Ça ne veut pas dire apprendre ce qu'il ignore. On dit que Dieu, il sait de toute éternité qu'il va t'arriver telle chose. Et quand cette chose t'arrive, on dit que Dieu sait cette chose, elle t'arrive maintenant. Donc le changement, c'est dans la créature, mais pas dans, ça advient pas à Dieu ni à son attribut. Dieu, il sait que la personne a là telle chose. Mais avant l'existence de la chose, on dit pas que Dieu sait qu'elle a telle chose, on dit qu'il sait qu'elle va avoir telle chose. Parce qu'elle n'existait pas. Non. Mais Dieu, il sait qu'elle aura telle chose. Et quand elle a telle chose qui est advenue, on dit, il sait qu'elle a telle chose. Rien ne lui est caché. Et Allah dit dans le Coran, liyamiz Allah al-khabitha min al-tayyib. Pour que Allah manifeste à ses esclaves qui est mauvais parmi eux et qui est bon parmi eux. Donc c'est ça. Donc Dieu n'apprend pas des choses qu'il ignore. Il ne change pas. L'attribut de Dieu, l'ouïe. Allah Ta'ala entend toute chose par une ouïe qui est de toute éternité, exempte des débuts, sans oreille, ni aucun autre organe. Alors que l'ouïe des créatures est entrée en existence, c'est-à-dire créée. Allah Ta'ala dit, لَيْسَ كَمِثْلِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, qui signifie absolument rien n'a de ressemblance à Allah, il est celui qui entend et qui voit. Sans ni l'être, la parole de Dieu, sans son ni l'être, on va venir à l'attribut de parole de Dieu là. Mais là, on parle de l'attribut de l'ouïe, au sujet de Dieu là, on dit. L'ouïe de Dieu, sans organe, on dit qu'il entend tout ce qui existe, sans organe, sans oreille, sans changement, sans quantité. Et l'attribut de la vue. Allah, il voit toute chose par sa vue qui est de toute éternité. Sa vue n'a pas de ressemblance avec la vue des créatures, car Dieu voit sans avoir besoin de rétine ni de rayons lumineux. Nous, on voit, c'est une simple habitude. On voit avec des yeux, il faut la lumière, sinon on voit pas, une proximité, Si c'est très loin, on voit pas. Ça, c'est des simples habitudes. C'est pas une nécessité rationnelle. Donc Dieu, lui, nous voit sans organes, sans yeux, etc. Donc ainsi, celui qui veut être sauf doit absolument apprendre la science de l'exemption de Dieu, le tanzih, par transmission orale auprès des gens de science, pour ne pas tomber dans l'assimilation de Dieu à ses créatures. Donc, l'attribut de Dieu, la parole de Dieu. Voilà, donc, ainsi, Allah parle et sa parole exempte de début et de fin, est exempte de début et de fin, et il n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures. La parole de Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il ne lui advient pas de silence ni d'entrecoupement, car la parole de Dieu n'est pas constituée de lettres ni de sons. Et sa parole n'est pas une langue, tandis que la parole des créatures est constituée de lettres, de sons et avec des organes. L'imam Abu Hanifa, que Dieu l'agrée, a dit: Wallahu yatakallamu bi kalamin la yushbu kalamana, nahnu natakallamu bil alati min al makharij wal huruf, wallahu mutakallimun bila alatin wala harf. Ce qui signifie: Allah parle d'une parole qui n'a pas de ressemblance avec notre parole, alors que nous parlons avec des organes, jouant sur des points de prononciation et avec des lettres. Allah parle sans organes ni lettres. Sa parole n'a pas de début, n'a pas de fin, ne ressemble pas à la parole des créatures. Allah Ta'ala dit: Wa kallama Allah Musa taklima. Ce qui signifie: Allah a assurément parlé à Moussa. C'est-à-dire que Dieu a fait entendre à Moussa sa parole sans que cela soit une voix, ni des sons, ni des ondes. Ainsi, la parole de Dieu est exempte de début, alors que Moussa et sa compréhension ont un début. Donc Dieu, sa parole n'a pas de début, mais Moussa et sa compréhension sont entrés en existence. Donc il est obligatoire, selon la raison, l'attribut de parole pour Dieu, car s'il n'était pas s'il n'était pas attribué de la parole, il serait attribué du contraire, qu'il est fait d'être muet, et ceci est une imperfection, l'imperfection est impossible s'agissant de Dieu. Ainsi, nier l'attribut de la parole de Dieu est de la mécréance catégorique qui fait sortir de l'islam. Donc il y a parmi les sectes qui nie l'attribut de parole de Dieu, et les savants ont pu répliquer à ce genre de secte, les Mu'tazila, ils nient l'attribut de parole de Dieu, et les Mushabbiha, les assimilateurs, ils attribuent à Dieu les sons, les lettres. Les sunnites sont dans le juste milieu, ils confirment que Dieu a l'attribut de parole, mais qu'il ne ressemble pas à la parole des créatures. On ne peut pas nier l'attribut de parole de Dieu, ni attribuer à Dieu des sons et des lettres, sinon c'est de la mécréance. Donc le mot Coran est employé dans deux sens. Le mot Coran est employé dans deux sens. Le premier sens désigne l'attribut de parole de Dieu qui n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures, qui n'a pas de début ni de fin, qui est sans organe ni lettre, qui n'est pas une langue arabe ni autre langue. Ça, c'est le premier sens du mot Coran. C'est pour ça que les savants ils disent: le Coran est l'attribut de Dieu qui n'est pas créé. Donc ils disent le Coran est l'attribut de parole de Dieu qui n'est pas créé, parce que le premier sens du mot Coran, c'est l'attribut de parole de Dieu. Et le deuxième sens du mot Coran, c'est désigne les termes révélés au prophète Mohammed qui sont en langue arabe. Et la langue arabe et toutes les langues sont créées par Dieu. Ces termes sont une expression de l'attribut de parole de Dieu, le Coran. Et l'attribut de parole de Dieu n'est pas une langue arabe ni autre langue. Mais nous pouvons dire des termes révélés qui sont en langue arabe que c'est la parole de Dieu, dans le sens que c'est une expression de l'attribut de la parole de Dieu qui n'est pas des sons ni une langue arabe ni autre langue, et qui ne ressemble pas à la parole des créatures. L'attribut de parole de Dieu n'est pas des sons, n'est pas des lettres. Donc on dit, comme on l'a dit, on peut dire J'ai lu, par exemple, quelqu'un, il a lu le Mushaf, et on peut, il dit, j'ai lu la parole de Dieu. Parce que ces termes-là, ce n'est pas écrit par Jibril ni par le prophète Mohammed. C'est une révélation. C'est une expression de l'attribut de parole de Dieu. Mais l'attribut de parole propre à Dieu n'est pas des sons, ni une langue arabe, ni une autre. D'accord? Donc c'est ça les deux emplois à bien maîtriser. Ainsi, si nous écrivions Dieu, ce terme n'est pas le Créateur lui-même, mais c'est une expression qui désigne le Créateur. De même, le Coran, dans le sens des termes révélés, n'est pas l'attribut de parole de Dieu, mais c'est une expression de l'attribut de la parole de Dieu, qui n'est pas des sons, ni une langue arabe, ni autre langue que l'arabe, et qui ne ressemble pas à la parole des créatures, qui n'a pas de début ni de fin. Donc, que ce soit le mot Coran, ou Taurat, ou l'Injil, chacun il a deux sens. Premier sens, ça désigne l'attribut de parole de Dieu, qui n'est pas des sons, qui n'est pas une langue arabe, ni autre. Et le deuxième sens, ça désigne les termes révélés aux différents prophètes, en hébreu, en araméen, en arabe. Ces termes, on peut les appeler parole de Dieu, mais on ne dit pas attribut de parole de Dieu. Parole de Dieu, ça veut dire parce que c'est une expression de l'attribut de parole de Dieu qui n'est pas des sons, qui n'est pas des lettres, ni une langue arabe, ni autre. Éternel, sans début, sans fin. Et l'attribut de la vie, donc Allah a pour attribut la vie qui est de toute éternité, exempt de début et de fin. La vie de Dieu n'est pas constituée d'âme, ni de chair, ni de sang. Donc la mort est impossible au sujet de Dieu. En effet, s'il n'était pas vivant, aucune des choses de ce monde n'existerait, car ce n'est pas car Ce qui n'est pas vivant, car ce qui n'est pas vivant n'est pas attribué de puissance, de volonté, ni de science. Donc c'est pour ça, obligatoirement, il a pour attribut la vie, parce que celui qui n'a pas la vie ne peut pas avoir la volonté, ni la science, ni la puissance. Si Dieu n'avait pas pour attribut ces attributs-là, il aurait pour attribut l'opposé de cela. Or Dieu est exempt d'imperfection. Quant à la vie des créatures, elle a lieu par la réunion de l'âme, du corps, de la chair, des os, du sang. Elle est sujette à l'interruption. La vie de Dieu est comme ses attributs, elle n'est pas sujette à l'interruption. Sa vie n'a pas de début, n'a pas de fin. Allah Ta'ala a dit, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, qui signifie, Allah, il n'est de Dieu que lui, le vivant, celui qui n'a besoin de rien et qui ne s'anéantit pas. Al-qayyum, qui n'a besoin de rien, selon une certaine explication, et une autre, selon une autre, il ne s'anéantit pas. Donc c'est des sens corrects. Il ne meurt pas, il ne s'anéantit pas. Donc ces attributs ont été répétés plusieurs fois dans le Coran, dans le Hadith, donc il est nié, et donc de la mécréance. Nier cela au sujet de Dieu et de la mécréance. Il n'y a pas d'excuse. La personne qui attribue à Dieu le contraire, il sort de l'islam. Mais si quelqu'un, il n'a pas réfléchi à ces détails-là, il a cru au sens de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu, il est musulman croyant. Mais il est dans un danger, il est dans le péché, il est dans un danger s'il n'apprend pas ces détails, car si il a une mauvaise suggestion, il y adhère, qui contredit ses attributs ou des gens qui lui disent des choses contraires. Il y adhère, il sort de l'islam. Donc c'est pour cela, c'est important d'apprendre. Et c'est pour ça, les savants, il les citait, le prophète, il les citait, il les répétait plusieurs fois. Donc pour finir, on va revenir sur l'attribut de Dieu, l'unicité de Dieu. On a vu que Allah est unique, il n'a pas d'associé. Et donc il y a la preuve que Dieu il est unique, il n'a pas d'associé, donc il est unique par lui-même, par ses attributs et par son acte. L'acte de Dieu est son début. Et la créature a un début. L'acte de Dieu est son début. L'acte de Dieu est son début. Il ne ressent pas l'acte des créatures sans organes. La preuve rationnelle, donc on va voir aussi la parole, elle est importante de Sayyidina lui-même Abu Hanif, il dit Allah est unique, pas dans le sens numérique, mais dans le sens qu'il n'a pas d'associé. Donc, Dieu il est unique, pas dans le sens du nombre, mais dans le sens qu'il n'a pas d'associé, et son être, il est unique dans son être, il n'y a pas un être qui ressemble à l'être de Dieu, dans ses attributs, ils n'ont pas de début, ils n'ont pas de fin, ils ne changent pas, et dans son acte, l'acte de Dieu est sans organe, sans quantité et sans comment, il ne change pas. L'acte de Dieu, elle n'est pas entrée en existence, et la créature est entrée en existence. Donc, alors les savants, ils ont dit les attributs de Dieu. Certains savants, ils ont cité ils ont dit voilà tel nombre pour les attributs de Dieu, et selon d'autres savants, donc il y a ces petites subtilités qu'on va voir, et ils ont dit, ils n'ont pas limité les attributs de Dieu par un nombre, parce qu'ils ont dit les attributs des actes, sifat al-af'al, les attributs des actes, ils sont des attributs qui sont propres à l'être de Dieu. Donc, ils n'ont pas de début. Ils ont dit, Dieu a il donne la vie par un attribut, par lequel il donne la vie, un attribut par lequel il donne la mort. Sifat al-ahya wal-imata. Il a un attribut par lequel il donne la subsistance. Donc, c'est l'école maturidite qui dit, cela, et les ash'arites, majoritairement, ils disent, les attributs des actes, ça vient de la puissance de Dieu. Il donne la vie, la mort, la substance par son attribut de donner, par sa puissance. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit les attributs de Dieu, ils les ont cités dans un certain nombre, alors que les autres ils limitent pas par un nombre. Donc ça c'est les deux grandes écoles dont comme il y a les quatre écoles. Il y a les deux grandes écoles dans la croyance, les Ash'arites et les Maturidites. Ils divergent pas sur le fait que Dieu n'a pas de début, qu'il ne change pas, qu'il ne lui advient pas une chose, qui entre en existence. Mais sur des explications, il y a des petites subtilités, des petites différences. Comme là, ils ont dit, ils n'ont pas limité les Maturidites, les attributs de Dieu, parce qu'ils disent les attributs des actes. Ils les ont pas limités par un nombre du fait que ils disent Dieu a un attribut par lequel il donne la vie, il donne la mort, etc. Et ils ont dit c'est propre à l'être. Alors que les Ash'arites, ils disent c'est un résultat de la puissance de Dieu. C'est les attributs des actes. Il donne la vie, la mort, la subsistance et par sa puissance. Donc certains ils ont limité par nombre, d'autres non. Voilà. Donc ça c'est vraiment très subtil, c'est la voix des Ash'arites. Ils disent ça, tout ça, ça vient de la puissance. Les autres ils ont détaillé subtilement ces choses-là. Donc il faut savoir que ça existe. C'est les deux grandes écoles. Les Ash'arites c'est majoritairement suivi par les pays arabes, parce que Abu al-Hasan al-Ash'ari c'est un arabe descendant d'un compagnon qui s'appelle Abu Musa al-Ash'ari. Et la majorité des pays comme le Maghreb, tous ils disent clairement dans le livre que je t'ai cité au début, Ibn Asher, dès le début du livre, il dit fi aqd al-Ash'ari wa fiqh Maliki wa tariqat al-Junayd al-Saliki. C'est enseigné dans tout le Maroc, toute l'Algérie, toute la Tunisie. L'Égypte aussi ils suivent, mais dans d'autres traités, mais c'est la croyance Ash'arite, parce que dans le 3e siècle de l'Égypte, quand il y a eu beaucoup de sectes, des gens philosophes, etc., ils ont fait ces deux grands savants des écoles dans lesquelles ils forment les gens, c'est-à-dire des écoles, c'est une manière d'enseigner la croyance du prophète en fait. Tel sujet, il a telle preuve du Coran, du Hadith, ils ont fait des écoles pour former les gens, pour contrer les gens irreligieux qui veulent mettre le doute sur la religion ou les sectes. Donc, ils ont expliqué la croyance du prophète. Donc, on appelait une école Ash'ari et l'autre Maturidi, lui, il n'est pas arabe. C'était plutôt dans les pays non arabes, comme voilà maintenant la Turquie, etc. Donc, ils ont la bonne croyance. Donc, ils ont la bonne croyance, c'est savant, sunnite. Donc, c'est enseigné dans les pays musulmans et justement les sectes extrémistes. Et ils parlent contre ces gens-là qui ont enseigne la vraie croyance correcte du juste milieu, celle enseignée par celle dans le Coran et dans les hadiths du prophète alayhi, que la raison accepte aussi. Donc c'est conforme à la raison saine qui est une témoin de la religion. Donc en fait, bien sûr, les quatre écoles aussi maîtrisaient la croyance, mais ils étaient connus surtout pour le fiqh, la jurisprudence en fait. Donc il parlait, Abu Hanif il parlait, etc., de la croyance. Donc, mais ils ont existé avant ces quatre écoles, ils ont existé avant ces deux grands savants de croyance. Donc ils maîtrisaient bien sûr le sujet de la croyance, ils débattaient dessus, etc., contre les égarés, Abu Hanif il débattait, Chef il débattait. Donc Malik et tout ça, bien sûr, ils suivent cette croyance-là du prophète. Donc tous ils ont une croyance. En plus de suivre les quatre une des quatre écoles, ils suivent en principe les savants, les musulmans ou Ash'arites ou Maturidites. Donc selon les Malikites et les Shafi'ites, c'est des Ash'arites. Et les Hanafites, souvent c'est des Maturidites. Donc mais donc voilà, tout simplement. Non, 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 c'est, on va dire, si on peut dire, complémentaire. Là, il détaille plus sur la jurisprudence. Donc, la jurisprudence, d'accord? Et d'ailleurs, pour compléter, il dit, c'est la croyance Ash'arite, fiqh malikite, et la voie soufie de Al-Junayt. Donc, il y a un autre, troisième volet, qui est enseigné aussi dans, ça c'est tout ça, c'est à 7 ans qu'on enseigne ces choses-là. Hein. Comment ils étaient vraiment cultivés, les gens, ils étaient solides dans la croyance. Ils avaient cette culture que beaucoup ils ignorent. Donc on t'enseignait la croyance, la pratique, et après, quand t'as maîtrisé, on parle du soufisme. Le soufisme, le vrai. Là aussi, il y a le faux. Donc, le vrai soufisme, c'est t'apprends bien ta religion, la croyance, que Dieu ne ressent pas ses créatures, qu'il n'a pas besoin, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, etc. Tu préserves tout ce qui annule l'islam. Et après, on t'enseigne à te détacher de cette vie, d'être attaché à l'au-delà, évoquer beaucoup Dieu, faire attention, ne faire le bien que pas uniquement par recherche de l'agrément de Dieu. Donc, faire beaucoup d'évocations de Dieu. S'humilier à Dieu, avoir la crainte continuelle envers Dieu. C'est ça, purifier l'âme, c'est le soufisme qui s'apprend en troisième, c'est-à-dire après avoir maîtrisé la croyance, la pratique. Ça, c'est l'enseignement du prophète, en fait, tout simplement. C'est lui qui a enseigné d'être attaché à l'au-delà, le Coran l'enseigne, se suffire du peu dans cette vie, évoquer beaucoup Dieu. Ça c'est tout ça, ça vient du hadith. Donc il enseigne cette manière d'être après. Maintenant, ça s'appelle le vrai soufisme. Donc c'est l'enseignement, là, je t'explique l'enseignement des pays musulmans. C'est cette culture-là qu'il faut connaître. C'est la culture du juste milieu, ni laxisme, ni extrémisme. Donc il y a malheureusement ces sectes faux soufis qui... Ils délaissent les deux premiers volets, qui est la croyance et la pratique. Ils vont se concentrer sur l'apparence. Mettre une djellaba, avoir une soubha, avoir un turban, être isolé, faire l'évocation, et petit à petit, ils vont dévier. Ils vont déformer le nom de Dieu, jusqu'à au point de, au lieu de dire Allah, ils vont dire ah. Et ils se réunissent, ils disent des trucs comme ça. Ils déforment le nom de Dieu, ils passent leur temps, à danser, à chanter, et ils arrivent à un certain point d'égarement que Shaitan leur dit, mais écoute, t'as un niveau, t'as plus besoin de pratiquer la prière, ça c'est la prière, c'est pour les gens de bas niveau, toi t'as un niveau supérieur, c'est juste dans la tête, c'est la spiritualité. Et là, c'est la mécréance, bien sûr. Dire qu'on arrive, les savants, ils disent, l'esclave ne peut pas atteindre un niveau, il n'y aura plus d'obligation. Le prophète lui-même faisait les obligations, la prière jusqu'à, même quand il était malade, il a prié assis. Donc les obligations, la responsabilité reste jusqu'à la fin de ta vie. Sauf si tu deviens fou, tu perds la raison, là c'est pas noté sur toi. Mais donc ça c'est les sectes qu'on trouve de nos jours, et ils croient que ça y est, l'islam c'est juste un truc spirituel, dans le sens que tu penses à l'au-delà, tu évoques, et puis tu peux faire n'importe quoi et croire n'importe quoi. Donc ça c'est les sectes dangereuses aussi, qu'on appelle les faux soufis, qui ont été faits comme les sectes extrémistes, ont été faits par les occidentaux aussi quand ils voulaient coloniser, parce que dans l'histoire les vrais soufis c'était des grands guerriers aussi qui ne peuvent pas acheter. Imagine quelqu'un qui apprend bien la religion, tu lui proposes l'or ou les postes ou tel pouvoir, il va pas vendre sa religion, il voit que ça vaut rien tout ça, même tout l'or du monde devant le paradis ça vaut rien. Quelqu'un qui a bien appris sa religion, il sait bien que tout l'or du monde ne peut pas te préserver du feu de l'enfer, alors que donc elle va pas vendre sa religion, même si tu lui donnes la place de président ou de roi ou tout l'or du monde. Donc ils ont bien compris, les occidentaux, donc pour égarer les gens et pour pouvoir coloniser les pays musulmans, ils ont encouragé ces sectes là de faux soufis qui vont recruter des gens et leur dit, écoutez, non, laissez tomber la religion, au final c'est juste l'apparence, la religion c'est juste l'ambiance, voilà. Non, il y en a, ceux qui disent, voilà, on trouve des gens qui disent ce genre de choses. Ah non, c'est juste d'avoir un bon cœur et puis ça s'arrête là. Alors que dans la religion, on est jugé sur l'acte et l'intention, les deux. Il faut absolument que les deux soient corrects. Ça suffit pas de dire, ah, j'ai bon cœur. C'est vrai, tu as raison. Donc il y en a, on les trouve, des gens comme ça, habituellement, ils disent, ah, mais il faut être juste gentil, sympathique, ne pas faire mal aux autres, et puis ça, là. Il y a des étapes. Le plus important, après la foi, c'est les cinq prières. Après, les cinq prières aussi, ça vient le comportement, etc. Mais ça vient après. C'est des choses qui viennent dans l'ordre. Mais le plus important, c'est la foi, après les cinq prières. Donc quelqu'un, un prophète nous l'a dit, quelqu'un il prie, il vole. Il a pas dit ça sert à rien sa prière, comme dirait un ignorant de nos jours. Il a dit sa prière va l'empêcher. Parce que si, et c'est vrai, c'est la vérité, quelqu'un, tu remarqueras, inshallah, celui, toi-même tu vas le trouver, quelqu'un qui apprend bien profondément la croyance, tu vas voir, il va être sensible, il va avoir un meilleur comportement, celui qui, parce qu'il a la crainte de Dieu, il a peur de Dieu, il veut faire les choses bien. Et ça tu le verras toi-même. Quelqu'un qui apprend la croyance en Dieu, il va avoir un meilleur comportement. Il veut donner, il veut représenter ce trésor-là qui est la bonne croyance. Il veut lui donner un bon exemple devant les gens. Il va avoir un bon comportement. Il va patienter parce qu'il va espérer donner un bon exemple aux gens pour les attirer vers ce trésor-là. Donc en réalité, ceux qui ont le mauvais comportement, c'est des gens qui n'ont pas appris la religion. Les gens qui volent à droite à gauche, ils sont d'origine maghrébine, c'est des gens qui n'ont jamais, ils n'ont pas appris les règles de la religion. Tu les trouves, même certains, ils insultent Dieu. Donc, en réalité, quand tu apprends ta religion, tu veux donner un bon comportement, aux gens, parce que t'espères la guider pour les gens, t'aimes le bien pour les autres, c'est ce que enseigne l'islam. Et donc, c'est très fort, la religion. Les musulmans, il souhaite la guider pour les gens, tout en sachant que Dieu fait ce qu'il veut, n'a pas de compte à rendre, que si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde. Dieu guide et garde qui il veut, il n'a besoin de rien. Et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Parce que la règle, j'explique ce point avant que j'oublie, la règle très très importante chez les sunnites, en fait, c'est l'enseignement des prophètes, bien sûr, c'est que Dieu n'est pas obligé d'accorder quoi que ce soit. Il n'est pas contraint. Donc, il accorde par sa grâce, il prive par sa justice. Il n'est pas obligé d'accorder à l'être humain ce qui est le mieux. Sinon, il aurait mis directement tous les gens au paradis. Donc, Dieu, il accorde par sa grâce. Donc, y compris la guider. Il accorde par sa grâce toute chose de bien. Dieu l'accorde par sa grâce. Il prive par sa justice. Donc, il égare. Il prive par sa justice parce qu'il n'a pas de compte à rendre. Il n'a personne qui lui ordonne, qui lui interdit. Et tout lui appartient, fait ce qu'il veut. Donc il n'a pas de compte à rendre. Donc ça, c'est très important. Et voilà, j'espère que c'est clair. Alors, on a dit la preuve, donc on a dit Dieu il est unique, donc il y a une preuve rationnelle. Donc la raison témoigne de la vraie de l'islam. Chaque sujet de la croyance, il a une preuve. Donc la preuve, on va expliquer une preuve pour finir. Donc la preuve rationnelle de son unicité est qu'il est indispensable. Donc on va voir parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend dans le Coran. Et Allah Ta'ala dit لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا, ce qui signifie s'il y avait pour le ciel et la terre des dieux hormis Allah, les cieux et la terre seraient certes en discordance. C'est-à-dire s'il y avait deux créateurs, ça peut pas être en concordance. Et même dans d'autres ayats, il nous dit que de comparer avec les rois de sur terre, quand il y a plusieurs rois, il y a toujours des guerres, on le voit, des guerres toujours, on se bagarre le terrain, etc. Donc s'il y avait plusieurs dieux, ben ce serait désordonné le monde. On voit bien que c'est ordonné, le soleil se lève de tel à tel côté, etc. Il est régulièrement, etc. La plante généralement elle pousse de telle manière, etc. L'être humain est né, voilà, que 5 doigts, il aurait pu y avoir plus, 6 ou moins, etc. Donc habituellement c'est comme ça, c'est ordonné, donc ça veut dire de manière générale. Et des fois Dieu fait que c'est contraire à l'habitude, des choses arrivent pour montrer que ça, qu'il est tout puissant, pour changer l'habitude. Donc voilà, c'est ça, en fait c'est logique, tu vois, on trouve la réponse. Donc ils ont dit les savants, il est indispensable. La preuve rationnelle, c'est la suivante. Il est indispensable que celui qui crée l'univers soit vivant, tout-puissant, ayant une science, une volonté et un choix. Parce que si il serait contraint, ben il serait faible déjà. Donc ils n'auraient pas le choix. Donc c'est pas Dieu. Donc comme il a été confirmé que celui qui crée l'univers a pour attribut ce que nous avons cité, nous disant, si le monde avait deux créateurs, il serait obligatoire, selon la raison, que chacun d'eux soit vivant, tout-puissant, ayant une science, une volonté et un choix. Donc on voit bien, on dit si. Or, il est possible, selon la raison, à deux êtres ayant le choix qu'ils divergent dans leur choix, car chacun d'eux n'est pas obligé d'être en accord avec l'autre dans son choix, sinon il serait contraint. Et celui qui est contraint ne peut avoir la divinité. Par conséquent, si cela était valable, si l'un des deux voulait l'opposé de ce que veut l'autre pour un même sujet, comme si l'un voulait la vie pour un homme et que l'autre voulait sa mort, il n'en irait pas autrement que leurs deux volontés se réalisent, ou que leurs deux volontés ne se réalisent pas, ou que la volonté de l'un se réalise et non celle de l'autre. Donc il est impossible, selon la raison, que leurs deux volontés se réalisent du fait de leur contradiction mutuelle. C'est-à-dire que si l'un d'eux voulait qu'un homme vive et que l'autre voulait qu'il meure, il serait impossible que cet homme soit vivant et mort en même temps. Donc, si donc les deux volontés opposées ne peuvent pas se réaliser, donc ça indique l'incapacité. Si leurs deux volontés ne se réalisent pas, ils sont tous deux impuissants. Enfin, si la volonté de l'un d'eux se réalise et celle de l'autre ne se réalise pas, alors celui dont la volonté ne se réalise pas est impuissant. Et celui qui est impuissant ne peut pas avoir la divinité, il ne peut être exempt de début. Et si les deux volontés ne se réalisent pas, alors ça montre que les deux ils sont impuissants. Donc cela montre clairement qu'il est impossible, selon la raison, l'associer au sujet de Dieu. Cette preuve est connue chez les savants du Tawhid, et elle est appelée la preuve de l'incompatibilité mutuelle, qui vient de la verset qu'on vient de citer, لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا, s'il y avait pour le ciel et la terre des dieux hormis Allah, les cieux et la terre seraient certes en discordance. Donc voilà la preuve rationnelle que forcément il y a un créateur, que c'est impossible qu'il y ait deux créateurs. Donc comme on a dit, celui qui a cru le contraire de ses attributs, il n'est pas sur l'islam, il doit délaisser la mauvaise croyance et dire les deux attestations de foi. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad et son messager, et le messager de Dieu. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, en ayant délaissé la mauvaise croyance pour être vraiment sur la religion. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.